chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Bonjour aux amateurs de voyage et bienvenue dans ce sixième épisode. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre traversée d'ouest en est de l'Amérique du Nord sur 2500 km à travers 6 États des USA. Dans la première partie de l'émission, nous allons nous diriger jusqu'au sud du Minnesota. Dans la seconde, nous allons contourner les Grands Lacs et revenir au Canada. Après le passage de la frontière au sud de Winnipeg, ma première étape est Fargo, capitale du Dakota du Nord. Il s'agit d'une escale prétexte. J'ai toujours aimé le film Fargo des frères Coen. C'est l'occasion d'y faire un tour. Mais contrairement à ce film culte, pas de traces de neige. C'est l'été, on est à la mi-août 2019. Je suis hébergé par la sympathique famille Meaders. Mes hôtes pratiquent la chasse et possèdent une quinzaine d'armes à feu. Wyatt, l'aîné, a tué son premier écureuil à 8 ans, son premier canard à 11 ans et son premier cerf à 13 ans. Je suis surpris d'apprendre que l'adolescent détient les clés de l'armurerie et a donc accès aux munitions. Sacrée responsabilité quand on a 14 ans. Heureusement, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Dans un centre commercial, par curiosité, j'entre dans un magasin d'armes. Je découvre un présentoir où s'alignent des mini-fusils multicolores destinés aux enfants. Pour l'équivalent de 115 €, il est possible d'offrir une arme à feu à sa progéniture. J'interroge le vendeur sur cette pratique qui me semble aberrante. À la question de savoir quel est l'âge minimum pour utiliser une telle arme, il me répond qu'il n'y en a pas. L'enfant doit être capable de porter le fusil d'1,5 kg, tout en étant suffisamment mature pour s'en servir. Par exemple, me dit-il, l'une de ses filles a commencé le tir à 7 ans seulement. À mon sens, cela pose avant tout la question de la maturité des parents. En disant cela, je ne vise aucunement mes hôtes chez qui l'usage des armes semble sous contrôle. Quoi qu'il en soit, cela fait à peine 24 heures que j'ai passé la frontière américaine et les armes à feu sont déjà omniprésentes. À Moorhead, ville qui touche Fargo, mais qui se trouve dans l'état voisin du Minnesota, je suis étonné de voir une église en bois de type nordique. C'est une réplique d'un édifice du XIIe siècle situé en Norvège. Juste à côté se trouve le Hjemkomst Center. Y est exposé un drakkar fabriqué dans les années 70. Durant l'été 1980, le navire a réalisé son voyage inaugural sur le lac Supérieur. Souffrant d'une leucémie, son concepteur est décédé quelques mois après. 2 ans plus tard, ces 3 enfants ont navigué avec le drakkar jusqu'en Norvège, conformément au projet initial de leur père. Partis de New York, avec un équipage complet, ils sont arrivés à Oslo 2 mois plus tard. La veille de mon départ de Fargo, je vois les enfants de mes hôtes désœuvrés. Je leur propose un atelier bricolage de confection de panneaux d'autostop. À l'aide de cartons et de marqueurs, ils me préparent les 4 panneaux dont j'aurai besoin pour aller jusqu'à Chicago. Pour l'heure, ma destination est Duluth, à 400 km de là. Je l'atteins en 4 covoiturages spontanés. J'arrive en ville avec 2 étudiants qui voyagent avec un énorme mobilhome. C'est bien pratique, on se gare au milieu de la nuit et je peux dormir sur le canapé. Duluth est la ville natale de Bob Dylan, mais c'est une chanson des Meat Puppets, reprise par Nirvana, qui m'offre le prétexte de cette étape. En effet, le nom de la ville est cité dans Lake of Fire, titre que j'affectionne particulièrement et que vous retrouverez sur l'album mythique Unplugged in New York. J'écoute donc cette chanson en me baladant au bord du lac Supérieur. Mmh. Bien que je sois dans ma bulle, plongée dans cette chanson, une dame m'aborde. Elle s'appelle Lille. On sympathise et au bout de 30 minutes, son époux Dan et elle me proposent de m'héberger pour la nuit. Je les remercie et leur confie mon sac à dos. Je repars afin de me baigner dans les eaux du lac supérieur. Avec ses 82 350 km², c'est le lac d'eau douce le plus vaste du monde. Je me dirige ensuite vers l'un des symboles de la ville, son énorme pont suspendu. C'est une copie du pont transbordeur de Rouen, édifié en 1899. Ça fait plaisir de voir que la France a aussi su inspirer l'Amérique. En fin d'après-midi, je me rends compte que mes hôtes habitent à 10 km du centre-ville. Décidé à m'y rendre en stop, j'interpelle un motard pied-à-terre devant un feu rouge. Il accepte de me déposer et j'enfourche sa bécane. C'est ma toute première expérience de motostop. Le lendemain, je fais du stop avec le plus grand panneau que j'ai jamais eu entre les mains. Il mesure plus d'un mètre. On peut y lire « Minneapolis » et juste en dessous « Cannon Falls ». Le prétexte du jour, c'est d'aller voir le studio où le groupe de Kurt Cobain a enregistré son troisième album, In Utero, en 1993. Le couple qui s'arrête pour moi n'a jamais pris d'autostoppeur, mais il est intrigué par ma destination. En effet, Cannon Falls ne compte que 4000 habitants et se situe à 300 km de là. « Mais qu'est-ce que tu as prévu de faire à Cannon Falls ?» me demande le chauffeur en ouvrant sa portière. J'explique mon projet à Becky et Russ qui, intrigués, m'emmènent avec plaisir. Ils doivent passer par là pour rentrer chez eux. Finalement, curieux de découvrir ma destination prétexte, ils finissent par faire un petit détour pour voir avec moi le studio Pachyderm, où a notamment été enregistrée la chanson « Dumb ». Vous écoutez Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 x 15 minutes. Dans la seconde partie de l'émission, nous allons poursuivre notre route au nord des USA jusqu'au Canada. Pour commencer, je suis toujours avec Becky et Russ, qui m'offrent l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, ces deux évangélistes me proposent de les accompagner à la messe. J'accepte sans hésiter de vivre cette expérience culturelle. Un groupe de musique joue, le pasteur s'adresse directement aux enfants regroupés autour de lui, tout le monde chante avec joie. rien à voir avec les messes catholiques que j'ai connues dans mon enfance. Au sortir de l'office, un jeune homme m'aborde. Hey, salut, je crois que tu as rencontré mes grands-parents avant-hier à Toulouse. Surprise et éclat de rire, c'est le petit-fils de Lille et Dan qui m'ont spontanément hébergé l'avant-veille à plus de 300 km de là. Quelle heureuse coïncidence! Mes hôtes de la veille me déposent à une station-service et on se quitte heureux de notre rencontre. Je ne tarde pas à monter avec un afro-américain qui s'appelle Michi. Je remarque qu'il porte une arme à feu sur la hanche, sous son t-shirt. Il m'explique que c'est pour sa sécurité. Une tante et deux de ses oncles ont été tués par balle par le passé. Apprenant qu'il est apprenti coiffeur, je lui demande s'il cherche des cobayes pour s'exercer. Michi est super content de pouvoir me couper les cheveux. Il s'arrête devant la maison d'une amie, m'installe, sort rasoir et ciseaux et me fait une coupe. La même journée, je monte avec Josh, un comédien qui a notamment fait la doublure de Daniel Radcliffe, l'acteur d'Harry Potter, dans une pièce à Broadway. Je termine mon étape du jour dans la voiture de Jerry. Ce sexagénaire accepte que j'installe ma tante dans son jardin. Lorsqu'il me dit qu'il est chiropracteur, je lui demande s'il peut me faire un petit soin pour soulager une épaule dont je souffre depuis quelques jours. Arrivé chez lui, il sort une table de massage de son garage et me manipule avec dextérité sur le trottoir. On passe ensuite la soirée à jouer de la musique sous son porche. Quelle journée originale ! Aujourd'hui, l'autostop m'a amené à avoir une coupe de cheveux, un soin de chiropraxie et à faire un bœuf musical avec un nouvel ami. Je repars vers Deer Grove. Depuis le Minnesota, j'ai traversé l'Iowa et me trouve désormais dans l'Illinois. Je compte rendre une visite surprise aux quatre jeunes Mennonites rencontrés un mois plus tôt au Canada. Une fois sur place, je leur demande si on peut se voir et si je peux camper dans le jardin de l'un d'eux. Rapidement, Arlene me rejoint. En arrivant chez lui, je suis très intimidé. Les quatre familles m'attendent pour faire ma connaissance. Il y a 35 personnes autour de moi. Les femmes portent une coiffe et des robes similaires, les hommes ont des salopettes et chemises à carreaux. Ceux qui sont mariés ont un bouc. Je prends des nouvelles de mes amis et leur entourage m'interroge sur la France et mon voyage. Pour eux, je suis un peu comme un extraterrestre. Je ne suis toujours pas marié, à plus de 30 ans, je voyage seul, en autostop qui plus est, à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi et ce pendant 15 mois d'affilée. Malgré notre style de vie différent, les Mennonites n'en sont pas moins accueillants. Entre eux, ils parlent le Pennsylvanian Dutch, langue germanique héritée de leurs ancêtres originaires de Suisse et d'Allemagne. Finalement, nos origines respectives ne sont pas très éloignées. En leur parlant brièvement allemand, je constate que l'on parvient à se comprendre. Je raconte à l'assemblée mes dernières semaines sur la route et ils se montrent fascinés par mon mode de déplacement. En retour, je les interroge sur leur mode de vie. À l'heure de se quitter, on me demande de laisser un mot dans le livre d'or de la communauté. Au lieu de dormir sous la tente, je suis invité à passer la nuit dans une chambre d'amis. Le lendemain, je visite les exploitations agricoles. Mes amis élèvent des vaches et produisent du maïs non modifié génétiquement. Je quitte la communauté, heureux d'avoir revu mes amis et d'avoir pu faire connaissance avec leur famille. Je lève le pouce pour atteindre Chicago, ville d'où est originaire un groupe de rock que j'affectionne beaucoup. Les Smashing Pumpkins. Depuis quelques jours, quand je dis à mes interlocuteurs que je me dirige vers Chicago, tout le monde me prévient que c'est une ville dangereuse. Apparemment, chaque jour, une personne y meurt de blessures par balle. On me déconseille certains quartiers. Pour quitter la ville, je décide de prendre le train afin d'éviter de lever le pouce dans une zone considérée comme risquée. En entrant dans la gare de Chicago, j'ai une impression de déjà-vu. L'une des fusillades du film Les Incorruptibles de Brian De Palma a été tourné ici. Je suis sûr que vous vous souvenez tous du landau qui dévale ses longs escaliers de marbre blanc au milieu d'échanges de tirs entre la police et les hommes d'Al Capone. Mon train m'emmène vers le Michigan en passant brièvement dans l'Indiana. Je sympathise avec Chris qui est assis à côté de moi. On descend dans le même patelin et il me propose amicalement de planter ma tente dans son jardin. Le lendemain, après une baignade dans l'eau gelée du lac Michigan, je repars vers le nord. Je fais plusieurs trajets en stop et monte entre autres avec un Marocain expatrié. J'alterne nuit chez l'habitant et camping sauvage. Il est temps de repartir vers le Canada. Mon objectif du jour est de passer la frontière à Port-Huron, à 77 km de là. À une station-service, j'aborde une femme d'une soixantaine d'années. Le courant passe tout de suite. C'est l'adorable Fayetta. Elle s'apprête à faire une surprise à sa fille, qui passe un entretien d'embauche au même moment. Elle finit par aller payer son plein d'essence, tandis que j'aborde d'autres clients. À ma surprise, Fayetta revient vers moi et me dit qu'elle s'est décidée à m'emmener à la frontière. Ma première réaction est de refuser. N'avait-elle pas prévu d'aller voir sa fille ? Elle m'avoue qu'elle s'est réveillée ce matin avec l'envie initiale d'aller se promener à Port-Huron. Selon elle, ce n'est donc pas un hasard si on se rencontre. Je lui permets, en quelque sorte, de réaliser ce qu'elle était censée faire aujourd'hui. Elle conclut que c'est Dieu qui m'a mis sur sa route. J'accepte sa proposition. Je ne vais tout de même pas contrarier le Tout-Puissant qui met sur mon chemin autant de croyants. Avant de partir, Fayetta m'offre le petit déjeuner et se confie. J'apprends que son fils cadet, Daniel, est décédé en 2004 à seulement 29 ans. Il a eu une crise cardiaque alors qu'il pêchait avec un ami. Le drame a eu lieu à Reed City, la ville d'où je suis parti la veille. Fayetta y voit un signe. Après avoir passé une partie de l'après-midi avec Fayetta à Port-Huron, l'heure de se quitter arrive. Mon ami me dépose sur un parking, à deux pas de l'entrée du pont qui fait frontière avec le Canada. Là, j'aborde deux hommes qui s'avèrent être roumains. Ils acceptent de me faire entrer en Ontario en apprenant que j'ai parcouru leur pays en stop 13 ans auparavant. Je salue chaleureusement Fayetta. On se prend dans les bras et la prière qu'elle prononce pour moi me fait monter les larmes aux yeux. C'est incroyable le lien qu'il est possible de tisser avec quelqu'un en si peu de temps. Je repars avec Dan et Adrian. Ils me déposent à London, à une station-service fréquentée par les routiers. Mon escapade aux USA prend fin. Elle a été intense. Avec seulement $50 en poche, j'ai pu vadrouiller deux semaines dans l'un des pays les plus chers du monde grâce à l'esprit d'entraide des nombreuses personnes rencontrées. Le mois prochain, nous poursuivrons la traversée de l'Amérique du Nord jusqu'à Québec. D'ici là, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre « Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde » ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook « Des racines à la page ». retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.